aujourd'hui, moi, j'ai constaté, en ayant été absent 18 ans de France, je suis revenu, je redécouvrais mon pays. Mais depuis 2004-2005, qu'on est rentré, l'homme de la rue est capable, hein, dans la plupart du temps, il écoute parler de Dieu. Sa conscience est percutée parce que notre monde, notre société a tellement voulu extraire et balayer les valeurs chrétiennes que les gens n'ont plus de valeur. Moralité, les valeurs religieuses fortes prennent de la place. À nous de prendre la place. Parce que si d'autres le prennent avec des valeurs fortes et embarquent les jeunes, c'est parce qu'eux savent prendre la place. Mais l'Église doit prendre la place. On a une voix aujourd'hui dans cette société. On a un impact à avoir dans le monde dans lequel nous sommes, que ce soit dans notre milieu de travail. Je l'ai dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et vendredi soir, j'ai beaucoup insisté sur la qualité de vie des chrétiens de Jérusalem. C'était mon... Je vais y revenir un petit peu ce matin là-dessus. Hier, on a plus parlé sur l'action du Saint-Esprit. On a parlé sur l'après-midi, beaucoup plus aussi sur l'Église, telle que Dieu la voit à partir du modèle Antioche, une Église missionnaire, une Église visionnaire, une Église à caractère apostolique. Mais j'aimerais revenir ce matin sur un des points qui a fait la force de l'Église. Du départ à Jérusalem, entre autres, c'est pour ça que j'ai appelé ça une église alignée avec le ciel, et je vais vous parler de la puissance de la prière ensemble. Ça tombe bien, vous en avez parlé juste avant moi. Donc, ça me paraît important que nous soyons alignés avec ce que Dieu fait. Et j'aimerais encore dire que c'est nous qui sommes au service de Dieu, c'est pas lui qui va à notre service. Et qu'on doit vraiment réaliser dans quel domaine on doit travailler, on doit aller pour être dans le temps de Dieu aujourd'hui. Est-ce que nous sommes une église qui comprend, qui capte la pensée de Dieu, qui est capable de réaliser pour nos vies, pour nos besoins personnels, mais aussi pour l'alignement de l'église, est-ce qu'on est capable par l'esprit, justement, avec un esprit clair, avec une dimension spirituelle qui grandit, de saisir ce que Dieu veut pour nous et ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Et contrairement à tout ce que nous voyons autour de nous, dans un monde qui est de plus en plus pessimiste, qui cherche des solutions vainement, nous avons, nous, un Dieu qui est un Dieu d'espérance. Et j'aimerais vous dire ce matin, nous sommes porteurs d'espérance. Je suis d'accord avec vous, il y a des jours où on est plutôt en bas. On n'est pas toujours au top quand on est chrétien. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs ici, vous êtes toujours au top, tout va toujours bien, vous êtes riche, vous êtes beau, vous avez tout ce que vous voulez, j'en sais rien. C'est pas, la vie chrétienne, elle n'est pas illusoire comme ça. Il y a des moments où on est vraiment dans la tempête. Mais la tempête a toujours un sens et Dieu nous en sort pour qu'on soit plus fort. Et pour qu'on puisse aider d'autres qui traversent les mêmes choses. Nous sommes porteurs d'espérance. Et Jésus a prié, il a dit, vous connaissez cette prière qu'on appelle... Notre Père, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et donc ça, c'est ce que nous voulons, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse là au travers de nous, comme elle est faite dans les cieux. Et nous avons un modèle divin. Je voudrais vous parler ce matin du modèle que Dieu nous montre. Je vais aller dans deux textes. Je voudrais vous lire d'abord Actes chapitre 4. Je remets le contexte, c'est la première église, on est après la Pentecôte. Il y a à Jérusalem un déversement de puissance énorme. Jean et Pierre montaient au temple, il y a un boiteux qui est guéri, il y a des miracles qui se passent, il y a 3000 conversions, 3000 baptêmes le jour de la Pentecôte. Bref, une communauté vivante, on en a parlé vendredi soir, je ne reviens pas là-dessus, une communauté qui vit une qualité de relation impressionnante. Et c'est l'une des forces de l'église de Jérusalem. Et puis vient la persécution. Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin, donc le tribunal juif. Finalement, comme ils sont accusés pour un miracle, on peut difficilement les condamner. Donc on les relâche. En leur disant, écoutez, on vous relâche, mais surtout taisez-vous. C'était déjà la laïcité perverse à l'époque. Mais pas la même que la nôtre aujourd'hui. Vous n'avez le droit de parler de votre Jésus que dans la sphère privée. Entre vous, dans vos réunions de maison, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas d'église, ils allaient au temple, mais sinon, c'était dans les maisons. Et puis, acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, d'un commun accord, notez bien, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu. Et ils dirent, Maître, je vais lire la prière. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées? Pourquoi les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Mais maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'avancer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. On a, j'ai voulu lire ça parce que c'est un peu long, mais on a un modèle de prière. Je pense que pour la plupart, vous avez déjà lu ça. Vous avez peut-être lu des prêches là-dessus, etc. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer ce matin, c'est cet état d'esprit qui était là dans les premiers chrétiens. Ils sont dans un temps où ils sont persécutés. Ils sont dans un temps où on leur dit de se taire. Hein, où on leur dit que leur message, leurs actions dans la ville de Jérusalem, on n'en veut plus, hein, alors qu'ils étaient là pour du bien, alors qu'ils apportaient du bien, alors que leur vie communautaire, il est dit, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Donc il n'y avait pas de sécurité sociale, donc ils avaient organisé ça entre eux, et ils étaient capables de soutenir les pauvres avec le partage des biens. Ils étaient capables d'apporter de la guérison par la prière, d'apporter du bien aux gens qui étaient autour d'eux. Donc ils faisaient du bien, on leur interdit, et on leur dit surtout, il faut vous taire. On leur fait des menaces, hein, et ils retournent vers les leurs. Et vous voyez, leur réaction, c'est ça que j'appelle une église alignée avec le ciel. Regardez ce qui se passe. Hein. Donc il est dit, Pierre et Jean reviennent vers les leurs, ils racontent ce qu'on leur a dit. Et d'un commun accord, d'abord, première réaction, ils n'ont pas commencé à lever le poing contre Hérode, contre le roi, ou contre les Romains, ou contre le chef du Sanhédrin, ou le grand prêtre, ou les Juifs qui les persécutaient, ils se tournent vers Dieu. Ils cherchent la réponse en haut, d'un commun accord. Amen. Vous voyez, déjà l'état de cœur. Tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié hein, ce témoignage que tu as donné sur le pardon, Marc. J'aimerais dire encore une fois ce matin que la réconciliation, le pardon, c'est le centre de la foi chrétienne. C'est le centre de l'évangile. Je ne sais pas qui vous êtes, peut-être vous êtes là en train de chercher votre voie, en train de chercher Dieu, peut-être vous êtes là pour une première fois. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun message sur la terre qui n'est comparable à l'évangile, parce que c'est le seul message qui nous apporte le pardon. Le pardon avec Dieu, le pardon avec les autres. Et c'est en cela que l'évangile n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une relation à la fois verticale de réconciliation avec Dieu et une relation horizontale de réconciliation et d'amour avec les autres. Amen. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Et on voit que ces gens-là, ici, vivent ces choses-là. Ils se tournent vers le Seigneur. Et il dit donc, d'un commun accord, vous avez remarqué, leur prière, elle est fondée sur la parole écrite. Première chose qu'ils font, ils se tournent vers Dieu. Il dit, Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer. L'adoration. Premier point de leur prière. L'adoration. Je vais en reparler tout à l'heure, hein, parce qu'on va voir dans l'Apocalypse le modèle d'adoration qui est dans le ciel, qui doit nous inspirer sur la terre. Et donc, on voit ici, il commence par reconnaître la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est établir dans nos vies le caractère majestueux, incomparable, incontestable de Dieu, quels que soient nos sentiments, notre humeur et nos circonstances. Dieu est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. » Dieu est Dieu. Amen. Persécution ou pas, ils établissent que Dieu est Dieu. Tu as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire que tu es au contrôle de tout. Tu maîtrises tout. Et puis, deuxième étape, c'est toi qui as dit par l'Esprit. Et là, ils vont citer donc des versets, des passages des psaumes de David pour appuyer leur prière. Voyez-vous, pour comprendre le monde d'aujourd'hui, vous avez les médias, vous avez Internet, vous avez tout un tas de choses, et c'est important de savoir ce qui se passe, mais il faut bien savoir qu'au travers de ça, vous n'avez qu'une partie de la vérité. Et souvent une vérité orientée, manipulée, il faut le dire. Donc si vous voulez avoir les vraies informations, il faut chercher ailleurs. Il faut chercher autrement, alors parfois sur des informations parallèles, on arrive à savoir des choses, fiables, parce que vous avez tout et son contraire, n'importe quoi des fois, mais aussi parce que l'Écriture nous donne l'actualité. Et eux, dans leur contexte, ils ont su aller chercher ce que Dieu disait dans certains textes des psaumes ou dans certains textes prophétiques pour l'adapter au temps présent. Hein, ils ont vu que dans ce qui s'était passé autour de Jésus, quand ils ont vu que Ponce Pilate et Hérode, par exemple, qui étaient des ennemis, Ponce Pilate était un Romain, Hérode était un homme de la région, c'était pas un juif, hein, c'était quelqu'un de la région du Moyen-Orient, c'était des gens qui pouvaient pas se voir, mais par contre, pour condamner Jésus, ils se sont entendus. C'est souvent comme ça, hein. Pour faire face aux chrétiens, des gens qui sont ennemis s'unissent, juste pour les faire taire. Et dans notre société d'aujourd'hui, les courants de pensée dominants de notre société, qu'ils soient islamiques, qu'ils soient francs-maçons, ils ont rien à voir entre eux, ils sont ennemis. Mais pour condamner les chrétiens, ou pour nous mettre la main sur la tête, ils savent faire. C'est ça le monde. Et donc ils ont réussi à voir hein, que cette alliance, ils ont fait un rapport avec les psaumes, avec la réalité de la parole de Dieu. Et ils prient sur la base de la parole de Dieu. Ils disent, hein, c'est écrit, les nations se sont agitées, c'est le psaume 2. Et puis les peuples ont eu des vaines pensées, les rois de la terre se sont ligués contre toi, etc. Et donc ils font un rapport entre cette parole de l'écriture qui datait de 1000 ans avant avec la réalité qu'ils vivent. Ça, c'est une des capacités, j'allais dire, de l'Église, de ceux qui ont, hein, comme il est dit au temps de David, il y avait une tribu, c'était les gens d'Issacar, ils savaient discerner les temps. Ils avaient cette capacité, que j'ose appeler prophétique, hein, de reconnaître au travers des éléments du temps présent ce qui est en train de se passer selon la parole de Dieu. Ce n'est pas des gens qui font des pronostics sur ce qui va se passer demain, ou vous annoncez la fin du monde la semaine prochaine, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais des gens qui savent interpréter l'écriture à la lumière du présent. Et comment le peuple doit se comporter, comment nous devons agir. Donc ils ont compris ça dans la prière, hein, ils rapportent ça à ce qui vient de se passer, et ils comptent bien, ils comprennent bien que Dieu est au contrôle de cette situation. Même si Jésus est passé par la mort, il fallait qu'il y passe pour qu'il ressuscite et qu'il apporte le salut. Donc tout ça, c'est clair pour eux, mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de leur prière. Ils disent maintenant, Seigneur, regarde, on nous menace. On nous dit de nous taire. Hein? Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Waouh, ils sont rebelles. Ils ne sont pas soumis aux autorités du pays. Effectivement, dans le cas présent, ils ne sont pas soumis, parce qu'on ne peut pas nous faire taire. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas éteindre la flamme qui était en eux. Hein. Et ils vont demander au Seigneur, donc ils vont lui dire, donne d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Comme on l'a vu hier, ces gens-là vont être dispersés plus tard. Mais les églises en Judée, en Samarie, jusqu'à Antioche, je vous ai dit, à Chypre, des églises vont ouvrir parce que ces hommes-là vont porter plus loin, ces femmes-là vont porter plus loin ce qu'ils avaient reçu là à Jérusalem. Amen. On ne pouvait pas les arrêter. Ça, c'est l'état d'esprit de l'église. Du peuple de Dieu. On ne combat pas contre la chair et le sang. On est d'accord ? On n'est pas là en train de se battre, ça me fait mal. Quand je dis, je ne suis pas très accro d'Internet, moi, je débarque dans cette technologie-là, ça me fait peur, mais j'ai quand même envoyé des emails et lire ce qui se passe sur les nouvelles. Mais je veux dire, quand on voit des fois les réactions, quand on voit des fois les chrétiens, comment ils parlent, ce qu'ils font, balance sur Internet comme vidéo, des fois sur des trucs. Mais je me dis, mais est-ce qu'on est une vision saine ? Biblique, fondée sur l'écriture de la réalité des choses. Et non pas sur ce qu'on entend ou sur ce qui nous fait peut-être même plaisir. Ici, ils ont dit, Seigneur, ce qu'on veut, c'est une démonstration de puissance. L'Église de France est dans un combat spirituel, un combat de puissance. Nous devons comprendre, il y a un combat qui passe, je ne veux pas vous faire peur, je ne suis pas en train de faire de la science-fiction, dire simplement que ce que nous vivons là sur notre pays, c'est clair, c'est le fruit de 200 ans et plus, hein, depuis je pense la Révolution française et même déjà avant, hein, de simplement où on a progressivement écarté Dieu de la scène, de la situation, où nos lois sont venues sanctionner des prises de position qui sont contre la parole de Dieu, et on commence à payer des factures. Ainsi en est-il sur le plan purement humain. Mais bien au-dessus de nous chrétiens, on n'est pas là pour se battre contre tel ou contre tel, on n'est pas là pour faire la guerre à tel ou faire le djihad chrétien contre tel autre, on est là pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, et on est là, si on doit se battre, c'est sur le plan spirituel. Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Ephésiens 6, 12, hein, mais contre des autorités, des dominations, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Hein, il est guéri dans les lieux célestes. Je voudrais juste vous dire en passant, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais ce combat spirituel contre les puissances, ce n'est pas les démons qu'on chasse chez les gens. C'est un combat à un autre niveau, dans le deuxième ciel, où on est confronté à des dominations extrêmement puissantes qui ont pris possession des nations. Moi, j'ai pris conscience de ça en Afrique. Je suis arrivé dans une société en Centrafrique, on était dans un village de brousse, hein, et, enfin dans une petite ville, et on était dans une région où, où les gens adoraient encore les idoles, ils apportaient des sacrifices dans la forêt, où il y avait des endroits interdits, nous les chrétiens, et en plus, nous étrangers, on n'avait pas le droit d'aller dans tel endroit, parce que c'était là que le Dieu régnait, etc. Les gens venaient apporter la nuit des sacrifices d'animaux, etc. Il y avait tout un culte entretenu, etc. Et j'ai commencé, et dans cette région-là, on excisait les filles, par tradition. C'était une des marques. Donc la société était polygame, etc. Et l'évangile était arrivé à peu près 40 ans avant nous, par les premiers missionnaires évangéliques, protestants. Et puis nous, on est arrivé en plein dans ce temps de réveil charismatique, où la guérison, la délivrance était enseignée, était pratiquée. Et on a commencé à voir, mais j'ai compris très vite que le problème n'était pas seulement parce que les jeunes filles subissaient des mauvais traitements ou parce que les gens étaient plongés dans la polygamie. J'ai compris que sur ces régions-là, il y avait des centaines, voire des milliers d'années que l'idolâtrie avait nourri des puissances qui régnaient. Et que si à un moment, on voulait que les gens soient libérés, il fallait bien sûr évangéliser, il fallait bien sûr les libérer de leurs démons et puis de leurs mauvaises habitudes, mais il fallait en même temps combattre dans le monde invisible. Et je veux encourager votre église. Hein. Ça, c'est pas du combat d'apprenti sorcier. Il y a des règles. Il faut être en équipe. Il faut être plusieurs. Hein. Il y a des gens qui sont voués à l'intercession pour ça. Je pense que Dieu appelle des gens dans ce domaine-là. Et j'étais tellement content de voir tout à l'heure une jeune femme parler de ça. Parce que souvent, c'est des gens d'un certain âge qui sont dans ces choses-là. Mais Dieu lève une armée en France. De jeunes et de moins jeunes, d'hommes et de femmes, qui vont aller dans ce sens-là. Hein. Et donc, notre pays, nous, est couvert, il est dominé par ces choses-là. Hein. La France est rationaliste depuis 250 ans, depuis les Lumières. Des puissances d'âme, je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais quand vous parlez souvent aux gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne savent pas pourquoi, ces mêmes gens-là vont vous dire que scientifiquement on déraille, que Dieu n'existe pas, mais le jour où ils sont malades et que la médecine ne peut rien, ils sont les premiers à courir partout, se faire soigner par des guérisseurs, des gens qui manipulent on ne sait pas comment, tout simplement parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Il y a des puissances d'incrédulité sur notre pays, très fortes. Des puissances de maçonnerie hein, qui se sont installées avec le temps. Et d'autres, je ne vais pas vous faire un catalogue, simplement, il faut combattre le bon combat. Et j'aimerais vous dire que l'adoration, l'intercession, c'est aujourd'hui une arme puissante dans l'Église. On a même parfois souvent cloisonné les formes de prière. Moi, j'ai découvert depuis à peu près une dizaine d'années, hein, je vais vous parler de quelques expériences après, mais qu'on pouvait, il y avait tout un courant qui était en train de naître, hein, qui est d'ailleurs dans le monde aussi, hein, où justement la prière est en train de prendre sa vraie place. Parce que j'insiste ce matin sur cet aspect-là. Je crois que dans le monde aujourd'hui, hein, il y a deux choses vraiment importantes pour l'Église. C'est mener le bon combat dans la prière et c'est agir dans l'esprit inverse de ce que le monde est en train de nous montrer. Quand nous témoignons de l'amour, nous allons contre la haine, contre les cloisonnements de population, contre le rejet de certains au bénéfice d'autres. Hein. Donc ce matin, je ne vous parle absolument pas, je n'ai pas le temps de vous parler de l'aspect concret, de l'amour que vous manifestez, on en a parlé un petit peu hier, mais je veux rester sur ce domaine donc d'une Église alignée avec le ciel, qui est en phase, et pour ça, c'est notre relation avec Dieu qui prime, notre relation personnelle, j'en ai parlé hier matin, notre relation d'Église. Il y a des choses que nous pouvons vivre personnellement, il y a des choses que nous pouvons vivre spirituellement en famille, mais il y a des choses que nous ne pouvons vivre qu'en communauté. Parce qu'il faut une puissance maximale. Et je veux le dire, et je suis heureux de voir ce qui se passe dans Paris, il y a des choses que vous ne pourrez et que nous ne pourrons vivre que si les communautés se mettent ensemble pour prier et pour agir. Et donc tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Et donc, il y a à peu près 15 ans, j'étais au Tchad, dans les années 2000, hein, à peu près, voilà. Je reçois un papier, des fois on recevait des infos, on était toujours en décalage avec des années de retard, hein, mais je reçois un papier sur le concept des maisons de prière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, et je reçois un truc qui vient de Kansas City aux États-Unis sur la maison de prière internationale, ça s'appelle High Hope, et je lis ce fascicule, et je vois que naissait, était né aux États-Unis, hein, donc un endroit où on prie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute l'année. Vous êtes au courant ces choses-là? Il y en a 300 dans le monde actuellement et 15 000 en formation. là où ça se développe le plus, c'est au Moyen-Orient jusqu'en Indonésie, dans les pays musulmans. Et Dieu m'a... Donc j'ai regardé ça, puis j'étais en Afrique, je me disais, bon, en Afrique, on est loin de ça. Je rentre en France et je suis en Israël. Parce que j'avais écouté et j'ai lu, donc j'avais aussi des infos par des frères et sœurs que sur Jérusalem, il y avait 4 maisons de prière qui fonctionnent comme ça, en 24 sur 24. Il y en a une sur le Mont des Oliviers qui fonctionne depuis 1987, donc ça fait plus de 25 ans qu'elle tourne en temps continu. Et je suis allé voir, je dis Seigneur, mais je veux comprendre le concept. Et je suis allé donc à Jérusalem, sur la maison de prière du Mont des Oliviers, donc c'est Tom S., le fondateur, c'est un Américain qui est revenu en Israël. Et j'ai commencé, je suis resté là une journée, deux journées, je suis allé dans une autre, dans le centre de Jérusalem. Et j'ai commencé à comprendre ce qui se passait dans des lieux stratégiques. C'est pas n'importe où, c'est à Jérusalem. Hein. Donc c'est au cœur du Moyen-Orient, dans un endroit stratégique. Et j'ai commencé à voir des gens j'ai rencontré là une Française, réunionnaise, qui, elle me dit, moi je fais les veilles de prière, elle m'a dit, j'ai donné 2 ans de ma vie. Je suis venu ici à Jérusalem, je fais la veille de prière toutes les nuits, de minuit à 4 heures. C'était donc une partie de son job là-bas. Elle priait pendant 4 heures avec un petit groupe, donc dans la maison, hein, et puis elle était relayée après par d'autres, etc. En continu. Et j'ai vu la puissance qui se dégageait de là. Je suis allé en visiter une autre, qui était beaucoup plus axée sur l'adoration que sur l'intercession. Bref, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un mouvement qui était en train de naître. Et pour vous dire, en novembre dernier, donc j'étais à Toulouse pour le 3e rassemblement des maisons de prière en France. Il y en a 20 en France, 20 ou 22, comme ça. Vous en avez une à Paris, je suis incapable de vous dire où elle s'appelle la maison des parfums, mais je ne sais pas où elle est. Elle n'est pas du tout en 24 sur 24, c'est un début en France. Il n'y a aucune maison encore où ça tourne comme ça. Mais à plusieurs endroits, nous on en a ouvert une à Grenoble, dans nos bâtiments, au 3e étage, on a une chambre dédiée à la prière. Où on a des heures de prière régulières, le matin, le soir, tous les jours de la semaine, etc. Puis si des gens veulent venir prier librement, ils viennent le jour, la nuit, ils peuvent venir quand ils veulent, c'est ouvert. Mais tout ça pour dire qu'il y a une puissance de prière qui est en train de monter dans notre pays. Nous ne sommes pas, je dois dire, hein, j'ai découvert que nous, en tant que Français, nous ne sommes pas spécialement bons pour la prière. J'ai vu prier les Coréens, j'ai vu prier les Africains, j'ai vu prier les Latinos, j'ai pris des leçons. Pour le jeûne et la prière, pareil. Hein, et donc, ça m'a contaminé en mission. Hein, ça m'a aidé. Nous, on est un peuple très bon pour l'enseignement, les Français. Hein, on est très pour le pastorat, on a de l'expérience. Mais on n'est pas spécialement porté vers ces choses-là, alors que d'autres peuples sont plus portés vers la prière ou l'évangélisation que nous. Mais tout ça, Dieu permet justement qu'il y ait des brassages culturels et des échanges pour qu'on puisse apprendre les uns les autres et unir nos talents, unir nos dons. Et il y a un temps ainsi sur la France, c'est pour ça que je veux vous encourager aussi, parce que nous, on est encouragés à Grenoble dans ce sens-là, où Dieu est en train de faire lever une armée de prière qui va être en parallèle avec l'armée de ceux qui agissent dans le concret, hein, qui vont donner à manger aux pauvres, qui évangélisent, qui font toutes sortes d'actions dans la ville pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Notre but, c'est que le royaume de Dieu soit manifesté. Mais nous devons connaître notre place. Et Dieu nous apprend à nous rapprocher du trône de Dieu. Et quand j'ai commencé à comprendre ce contexte de maison de prière, ça m'a ramené, j'ai étudié l'histoire missionnaire. Hein, j'ai un document là avec moi, je vais vous lire 2-3 choses dedans, si le temps le permet. Jusqu'à quelle heure? Vous n'êtes pas pressé, je vais le train à 15h, donc ça va. Tout ça pour dire que hein, ça m'a ramené au 18e siècle. Est-ce que vous avez entendu parler du réveil des Moraves? Il y en a qui ont entendu parler de ça? Alors je vous explique rapidement. La Moravie, c'est à l'extrémité de l'Allemagne, près de la République tchèque aujourd'hui. Et donc en ce temps-là, en 1727, il y avait un riche noble, c'était donc la période post-réforme. Un riche noble, là, qui s'appelait Zinzendorf, qui avait un grand château, et qui a commencé à accueillir des chrétiens un peu de bric et de broc. Hein, des gens qui avaient vécu la réforme, qui n'étaient pas forcément bien compris, et qui se sont rassemblés là dans une communauté, donc à l'époque c'était la Prusse, hein, c'est aujourd'hui l'extrémité de l'Allemagne. Et dans son château, il a accueilli ces gens. L'histoire missionnaire nous dit que pendant 7 ans, entre 1720 et 1727, il y avait donc des gens qui venaient de toute l'Europe, qui se rassemblaient là, et franchement, la communauté était très divisée. Ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils venaient de pays différents, etc. Ils avaient des concepts même chrétiens, des doctrines pas forcément les mêmes, etc. Zinzendorf, lui, il avait été touché par Dieu. C'est un gars qui avait voyagé à l'âge de 20 ans, il était, je crois que c'était en Belgique, il est allé dans une galerie d'art, hein, et c'était donc un gars de la haute société, et puis il est tombé devant une peinture faite par un Italien, la Renaissance, c'était le Christ en croix. Et c'était écrit, donc c'était une peinture sur l'agonie du Christ, sur la Golgotha, et dessous c'était écrit ceci en latin, « Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, que fais-tu pour moi ?» Et ça, ça l'a percuté. Hein, et il a dit, je vais rentrer dans mon château et je vais ouvrir une communauté chrétienne de prière. Et sa vision a évolué avec le temps. Donc il a rassemblé ces gens et puis en 1727, ils ont décidé, c'est pour ça que l'histoire que tu racontais tout à l'heure était très significative à Dieppe, Marc, hein, ils ont décidé à un moment, au printemps, ils ont fait une grande rencontre, ils étaient tous là, ils étaient à peu près 200 à vivre ensemble. Et ils ont dit, ça suffit, les problèmes qu'on a eus, aujourd'hui on fait une charte d'alliance. On fait taire tous nos différends, nos différences de doctrine, nos conflits passés. On met tout ça à jour. On se pardonne les uns les autres. Et maintenant, on veut accueillir la présence de Dieu. Je vous passe les détails, mais en août plus tard. Donc ça, c'était au printemps. En août 1727, ils étaient réunis un dimanche. Ils faisaient la scène le soir. Et le Saint-Esprit est descendu. Ils sont restés à genoux toute la nuit, et là, il y a 48 personnes, dont 24 fois 2, qui se sont engagées à prier une heure par jour en chaîne de prière. Et ils ont commencé cette nuit-là, donc 24 heures sur 24, deux personnes chaque fois, 48 personnes qui se sont engagées. Et le groupe a grossi. La réunion de prière en question a duré 100 ans. Vous entendez bien ? 100 ans, au même endroit, la prière est montée en continu. Et aujourd'hui, au château de Herrnhut, donc c'est là, depuis une trentaine d'années, cette veille de prière a été ranimée par des chrétiens tchèques et des chrétiens allemands. Donc c'est un endroit où on peut aller et où, à nouveau, la prière en continu monte sur les mêmes lieux, sur le même site. Il y a des fois des puits que Dieu permet qu'on débouche des années plus tard, voire des centaines d'années plus tard. Et donc, ils ont prié pendant 100 ans à cet endroit. Et Zinzendorf dit, permettez, je vais vous lire la chose, il est dit que à cette époque-là, donc dans les 25 années qu'on suivit, ils ont envoyé 100 missionnaires. Le mouvement morave est le précurseur du grand mouvement missionnaire des années 1800. Et ils ont envoyé du monde au Groenland, faut avoir envie, au Canada, jusqu'en Afrique du Sud. Et ouais, moi je préfère évangéliser les pays chauds que les pays froids. Hein, on fait comment ? On n'est pas tous fait pareil. Et donc il y a eu un renouveau de prière étonnant à ce moment-là. À partir de la prière, donc à partir de la réconciliation, la prière est née en continu. L'Europe a été influencée. John Wesley lui-même s'est trouvé un moment. Il allait aux États-Unis pour faire. Il était déjà pasteur anglican. Il a trouvé des moraves sur son bateau. Et pendant une tempête. Wesley a dit, mais j'ai besoin de me convertir, alors qu'il était déjà prédicateur. Et quand il est arrivé à New York de l'autre côté, il a couru dans une église morave. Il a trouvé un pasteur morave, il lui a ouvert son cœur, et Wesley dit dans ses mémoires que c'est ce jour-là qu'il est né de nouveau, qu'il s'est vraiment converti, alors qu'il était déjà prédicateur anglican. Et Wesley a été énormément influencé par ces gens-là. Toujours est-il que ce mouvement morave donc a été bouleversé. À cette époque-là, l'Europe a été le précurseur du mouvement missionnaire. Donc, je dis bien, en 25 ans, ils ont envoyé 100 missionnaires de leur communauté. Il y en a qui se sont vendus, il y en a qui sont allés aux Caraïbes, donc c'était des Allemands, ils se sont vendus comme esclaves pour pouvoir évangéliser pour la première fois les esclaves noirs qui étaient dans les îles des Caraïbes, dans les plantations de bananes, ou dans les plantations de canne à sucre, etc. Ils ont fait un travail extraordinaire, et tout ça, c'est né de la prière en continu. Et Zinzendorf dit, deux lignes distinctes de préparation et d'effort spirituel pour la bénédiction sont évidentes. L'une a été la prière, l'autre le travail individuel des personnes. Et donc, pour ceux qui ont étudié ça plus tard, il est dit que les caractéristiques du réveil, c'était la redécouverte de la majesté, de la grandeur, de la sainteté fantastique de Dieu et le sentiment d'une grande humilité face à Dieu. Et de l'adoration pour lui. Redécouvrir la grandeur de Dieu. Redécouvrir sa vraie nature. Redécouvrir qui il est et en même temps sa pleine autorité sur ce qui se passe dans nos vies, sur ce qui se passe dans ce monde. Frères et sœurs, plus que jamais, en tant que peuple chrétien, nous avons besoin de retrouver, de redécouvrir cette réalité de qui Dieu est. Et l'Esprit de Dieu, dont on parlait hier, est là pour nous ramener dans ces réalités. Amen. Dieu est au contrôle. J'aimerais dire ce matin, qui que vous soyez ici, dans votre situation, si vous avez fait confiance à Jésus, il est au contrôle de votre vie. Même si vous êtes au cœur de la tempête, même si vous êtes dans un moment difficile, même si peut-être ça craque dans votre boulot, ça craque peut-être dans votre vie de couple, j'en sais rien, Dieu est capable de sauver. Et si vous lui faites confiance, Dieu est aux commandes. Et nous devons le transporter à l'échelle de ce que nous vivons en tant que communauté chrétienne, dans un quartier, dans une ville, dans un pays. Dieu est aux commandes, et dans ce pays de France, il est aux commandes de ce qui se passe. Ne pensons pas que Dieu est loin. Dieu est en train de faire quelque chose pour nous ramener dans un temps de moisson.
Amen.
Amen. Mais ça ne se passe pas comme on aurait pensé. D'ailleurs, avec Dieu, ça ne se passe jamais comme on a pensé. Il y a toujours des choses autrement. Mais nous devons être alignés sur ce que Dieu veut. Et je voudrais, pour ça, donc, aller un petit peu plus loin. Je voudrais qu'on aille dans l'Apocalypse. Pour voir. Il y a un modèle dans l'Apocalypse. Rappelez-vous que, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Regardez Apocalypse 4. L'Apocalypse nous montre une guerre entre deux trônes. Apocalypse 4 et 5 nous présente le trône de Dieu dans les temps de la fin. Apocalypse 13 nous parle d'un autre trône, le trône de la bête et du dragon. C'est pas mon sujet ce matin, mais pour vous montrer qu'il y a une correspondance dans le monde spirituel avec le monde physique, entre ce qui se passe sur la terre et dans le ciel. Dans Apocalypse 12, verset 7, il est dit « Il y eut guerre dans le ciel entre Michaël et ses anges et Satan et ses anges. Et Satan ne fut pas trouvé le plus fort. » Amen. Et c'est écrit toujours dans Apocalypse 12, au verset 10. Je lis ça avant d'aller revenir. C'est pour vous montrer l'intensité de la bataille, pour vous montrer que nous sommes acteurs, nous, en tant qu'Église. Apocalypse 12, 7, il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui aussi avec ses anges, mais il ne fut pas trouvé le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité. Amen. Verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Est-ce que vous voyez l'enjeu? L'enjeu actuel, notre terre est ébranlée physiquement, climatiquement, politiquement, géopolitiquement, tout ce qu'on veut, parce qu'il y a une guerre et il y a l'avènement du règne de Dieu et de l'autorité de son Christ. Et que le monde spirituel conteste. De la même manière que quand Jésus est venu la première fois, jusqu'au bout, le diable a voulu l'empêcher d'aller à la croix pour qu'il n'accomplisse pas ce que Dieu avait prévu. De la même manière, pour son retour et avant son retour, l'ennemi fera tout pour empêcher que les choses se passent comme Dieu veut. Mais il y a une déclaration ici, c'est dit, j'entendis le ciel, maintenant est arrivé le salut. C'est-à-dire dans le temps de Dieu, il y a un maintenant. Il y a un temps de Dieu où le salut arrive, où l'autorité de Christ sera manifestée. Et regardez le verset 11. Ils l'ont vaincu. Ça parle des croyants. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Trois choses essentielles pour nous dans ces temps, frères et sœurs. Le sang de Jésus. Toujours nous rappeler, on a chanté tout à l'heure, c'est par ta grâce seule. Même après des dizaines d'années de conversion, c'est toujours par la grâce qu'on marche avec le Seigneur. C'est pas par nos mérites, c'est pas par nos exploits d'anciens combattants, c'est parce que nous sommes graciés de Dieu. Amen. Le sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, du sacrifice. Le sacrifice de Jésus est au centre, au cœur de notre vie, toujours. Toujours. Deuxièmement, ils ont, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas eu peur de parler, comme ceux qu'on a vus à Jérusalem, Donne-nous d'annoncer ta parole avec des signes, confirme avec des miracles, etc. Et troisième chose, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est notre engagement. Ça, c'est notre part. Le sang de Jésus, ça vient de Dieu. La parole de notre témoignage, c'est notre courage à témoigner. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est rester fidèle à ce que Dieu nous a montré. Jusqu'au bout, malgré, envers et contre tout. Amen. Ça, c'est des armes. Mais regardez, je reviens en arrière. Apocalypse 4. C'était juste pour vous montrer qu'il y a une bagarre réelle que la Bible sur laquelle la Bible ne s'étend pas. Elle soulève simplement le coin du voile de temps en temps, et puis le reste, c'est à l'appréciation, je dirais, c'est dans notre discernement que nous devons apprendre comment nous devons agir. Il est dit au chapitre 4, verset 2, « Je fus ravi en esprit, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Et puis, il y a tout un descriptif. De ce qui se passe dans le ciel. Je veux dire, vous cherchez un modèle d'adoration, vous avez là le modèle d'adoration dans le ciel. Hein, et je voudrais encourager votre équipe de louange, vos équipes de louange et d'adoration, je vais encourager vos intercesseurs, parce que l'intercession naît d'une vraie adoration. Les deux ne sont pas séparés, hein, c'est lié l'un à l'autre, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adoration établit le caractère majestueux de Dieu. Elle établit que Dieu est au-dessus de tout. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. La première fois dans notre Bible où le mot adoration apparaît, c'est Abraham. C'est dans Genèse 22, quand Abraham va immoler son fils sur la montagne de Morija. Il dit à un moment à ceux qui l'accompagnaient, « Moi et le jeune homme, nous allons adorer. Restez ici, nous tous les deux, on va monter jusqu'au sommet de la montagne, on va adorer. » En fait, il allait sacrifier son fils. L'adoration est parfois un sacrifice qui coûte cher, hein, qui nous coûte le meilleur, mais parce qu'on veut établir la priorité de Dieu dans nos vies, la priorité de Dieu dans nos choix, la priorité de Dieu dans ce que nous vivons. Ça, c'est l'adoration. Et le modèle de l'adoration, donc, hein, il est multiple dans la Bible, mais on a le modèle du ciel. Et donc, on voit le trône de Dieu, et il est dit un petit peu plus loin que. Donc, il y avait 24 trônes, verset 4. 24 trônes autour du trône, 24 anciens qui sont assis, vêtus de blanc, avec des vêtements blancs, leur tête des couronnes d'or. On nous dit un petit peu plus loin qu'il y a 4 êtres vivants, hein, au milieu du trône et tout autour, 4 êtres vivants. Donc on voit une description, vraiment, comment dire, Jean lui-même, il a du mal à écrire avec des mots ce qu'il voit, c'est céleste. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que, verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, lui qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent. Amen. Quelle image! On voit dans le ciel une adoration permanente, puissante, jour et nuit. Je dis, mais au moment, je dis, mais ils répètent toujours le même refrain, mais c'est terrible. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, celui qui est, qui était, qui vient. Et ils reprennent. Je pense qu'il doit avoir des refrains, des couplets un peu plus variés. Mais ce que je retiens, c'est que le ciel est rempli d'adoration. Et on voit ces vieillards, hein, donc on voit ces êtres célestes, qui sont des anges. Mais on voit ces anciens qui représentent l'Église, qui représentent l'Église et Israël, les 24. Hein, on voit que les rachetés sont associés à cette adoration. Et on a là un modèle. Hein, on revoit la même chose au chapitre 5, un petit peu plus loin, c'est beaucoup plus détaillé. Verset 8. Il est dit, quand les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun avec une harpe, donc il y a de la musique, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous voyez cette association, hein, je vais lire un autre verset après, mais cette association entre l'adoration céleste et les prières des saints. Les prières des saints viennent de la terre. Elles s'associent à la louange céleste pour monter vers Dieu, pour exalter sa gloire. Hein, et ça donne de la puissance à ce qui se passe et dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous me suivez?
Amen.
Les prières montent de la terre. Apocalypse 8. Apocalypse 8, verset 3, un ange, je suis obligé d'aller vite, hein, un autre ange vint se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir. Je rappelle que les parfums, ça symbolise les prières qui montent, hein, dans le tabernacle de David, plus tard dans le temple, dans le tabernacle de Moïse, pardon, et dans le temple que Salomon a construit, il y avait un autel où le parfum montait toute la journée, toute la nuit. Il était régulièrement alimenté. Hein, c'était donc une image de l'adoration, de la prière qui montait. Ici, donc, on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange. Vous voyez, la prière de la terre est associée à la prière dans le ciel. Ils font qu'un. Hein. Et cet ange-là, donc, c'est... Ça, c'est symbolisé. Mais l'ange fait monter ça devant Dieu, on voit. Et puis, ça monte comme un parfum avec de l'encens, etc. Et regardez le verset 5. L'ange prit l'encensoir, il le remplit du feu de l'autel et il le jeta sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos prières montent, elles s'associent à celles des anges, elles s'associent à l'adoration céleste, et puis à un moment, ça redescend. Ça redescend par des exaucements. Ça redescend par les choses que Dieu accomplit sur la terre. Nos prières ne sont pas vaines. La prière personnelle que tu fais monter dans ton cœur, peut-être depuis des années, n'est jamais vaine. La prière du peuple de Dieu ensemble n'est jamais vaine. Parfois on se dit, mais ça fait 5 ans, ça fait 15 ans que je prie pour la même chose. Mais surtout, t'arrête pas, parce que c'est peut-être la 16e année que ça va arriver. Et si tu arrêtes la 15e année, même au bout, tu auras juste arrêté avant que ça arrive. Dieu est ainsi. Et il veut que nous puissions aligner notre compréhension spirituelle de ce qui se passe sur la terre avec ce qui se passe dans le ciel. Les gens qui prient longtemps, les gens qui passent du temps, je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à ça. Tout le monde n'est pas appelé à prier 8 heures par jour, hein, sinon il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des gens qui sont appelés à prier 4 heures par jour, 5 heures par jour, 8 heures par jour. Hein. C'est un réel ministère, comme d'autres sont appelés au pastorat ou à l'évangélisation ou à autre chose. Mais nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes tous appelés à faire monter la prière vers Dieu. Et le peuple ensemble, hein, il y a des choses qu'on peut vivre tout seul, mais quand c'est le peuple ensemble qui fait monter, les choses bougent dans l'invisible. Et j'aimerais vous dire que Dieu est prêt, et il a déjà commencé à le montrer, Dieu est en train de bouger sur notre pays.
Amen.
Et je connais très peu la capitale, je ne viens pas souvent, mais rien qu'à voir, moi je suis très encouragé par les choses que j'entends ce week-end, que je vois, hein, et Dieu va bouger particulièrement ici, parce que c'est le cœur de la nation. Parce que le gouvernement, parce que les décisions majeures du pays, c'est ici. Les enjeux majeurs, c'est ici. Donc l'Église doit être dans ce mouvement. Et en vous voir ce matin, je me dis, mais waouh, quel potentiel ici. Quel potentiel ici, au milieu de vous, de tous les âges, de différents milieux, de différentes tranches d'âge, certainement de différents niveaux sociaux, tout ça. Mais c'est le peuple de Dieu dans toute sa dimension. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Alignons-nous sur ce que le ciel est en train de nous montrer. Alignons-nous sur ce que la parole de Dieu nous a annoncé. Un temps arrive, un temps est là, je ne sais pas combien de temps ça sera, mais Dieu veut réellement réveiller notre pays. Il le fera par toutes sortes de manières, il n'y a pas un schéma type, mais la prière, l'adoration, j'allais dire le couple, adoration, intercession, est une condition majeure. C'est pas le seul, comme je l'ai dit, il faudra lier l'action, hein. mais c'est essentiel, c'est fondamental pour notre pays. Tu sais, j'ai habité, pourquoi ? J'ai donné des raisons, mais j'ai habité pendant 4 ans, quand je suis rentré de France, dans une cité dans la banlieue lyonnaise. Il y avait à deux pas de chez moi une mosquée. Je peux vous dire que j'allais prendre des fois le tram pour m'en aller en ville, à 6h du matin, la mosquée était ouverte, je priais. Pendant le ramadan, c'était ouvert, eux aussi, en 24 heures sur 24, pendant 30 jours. Si l'islam fait ça dans nos villes, et je ne suis pas en train de faire un combat de religion, ça n'a rien à voir, mais l'islam a implanté depuis 30 ans dans nos pays des maisons de prière où eux, ils prient beaucoup. Et eux, ils nourrissent leur Dieu par leur prière. Si nous voulons du résultat, il faudra nourrir, nous, par la prière, l'autel de notre Dieu au moins autant. Vous comprenez ça? C'est simple. C'est de la mathématique de base. Et puis, il n'y a pas que l'islam. Il y a plein d'autres choses. Hein. Je prends simplement cet exemple-là. L'islam a compris depuis bien avant, nous, les chrétiens, souvent, hein, que c'était leur stratégie pour envahir notre pays. Et ce n'est pas caché. C'est dit dans des déclarations qu'ils ont faites il y a 40 ans, 50 ans en arrière, dans des rassemblements mondiaux. On va prendre l'Europe de l'Ouest. Et je suis pas en train de... Hein, je fais nettement la distinction entre l'islam, qui est un système... Les musulmans qui sont des êtres humains, qui sont des personnes comme vous et moi, à qui nous avons besoin d'apporter l'évangile. Mais par contre, le système de l'islam, celui-là, je le combat. Spirituellement, pas avec un fusil ou une kalachnikov, mais spirituellement. Par contre, les personnes, je les aime. Du moins, j'essaye. Et quand j'ai l'occasion, aussi souvent que possible, je vais au milieu d'eux et je parle de Jésus avec eux. C'est notre rôle. Avec eux, comme avec les gens athées, comme avec les gens d'autres religions, c'est notre rôle. Église, je vais terminer ce matin. Nous sommes engagés dans ces choses-là dans la fin des temps. J'aimerais vous dire, c'est passionnant. C'est enthousiasmant. Et peut-être, ça fait peur. Dire, mais... vous savez, Dieu nous prend. Si tu pries, j'aimerais simplement te dire ce matin, si tu pries 5 minutes par jour, la semaine qui arrive, élève ton niveau. Mets-toi 10 minutes. C'est pas la mer à boire. Juste pour l'anecdote, au moment où on avait nos attentats le 13 novembre, 15 jours plus tard est sortie une enquête faite dans 120 pays du monde sur l'utilisation du smartphone par les 16-26 ans. Les jeunes, 16-26 ans, utilisent ça 3 heures par jour. 21 heures par semaine, presque un jour sur 7. Les jeunes entre 16-26 ans consacrent 3 heures par jour à l'utilisation du smartphone, et je ne pense pas que ce soit pour être sur la Bible online. En France, on est juste en dessous de la moyenne, on est à 2h30, on n'est pas le meilleur. Amen, tant mieux. Mais on dit qu'on n'a pas le temps. Et je sais que la vie va très vite, surtout en capitale. Mais nos priorités. Si tu pries 5 minutes par jour, mets-toi l'objectif de passer à 10. Si tu prends 10 minutes par jour actuellement avec le Seigneur, peut-être avec ta Bible, ou à prier, essaye de monter à 15 les semaines qui arrivent. C'est pas la mer à boire. Si peut-être il y a quelqu'un qui a 30 minutes par jour, monte à 40. Essaye de voir comment tu peux aller un peu plus haut. Pas pour faire du chiffre. On est d'accord. Pas pour faire du chiffre, pas pour faire de la classification. Et puis Marc va vous donner les statistiques à la fin de 2016. C'est pas ça. Non. C'est par amour. C'est parce qu'on a compris que Dieu nous attend là. Si peut-être, comme il le disait tout à l'heure, tu n'es pas un fan des réunions de prière. Moi, j'ai dit ça aux jeunes dans l'église à Grenoble depuis 7 ans que j'y suis. Parce que la moyenne d'âge des réunions de prière, il y a 7 ans, c'était vraiment élevé. Je dis, les jeunes, vous trouvez qu'on prie mal. Ça vous rase, ça vous barbe. On ne prie pas comme les vieux, ça, vous y retrouvez pas. Je veux dire, j'aurais dit une chose. Mais venez tout groupe de jeunes à la réunion de prière. Venez une fois, deux fois, trois fois. En 5 fois, vous avez changé la réunion de prière. Elle sera jeune. Mais si vous ne venez pas, et ne prenez pas ce prétexte pour ne pas prier en disant « Ah non, mais nous on fait du fun, je ne sais pas trop quoi. » Non, non, on a besoin de vous dans la réunion de prière, mais venez, changez-la. Mettez-la à votre diapason. Hein, et je suis sûr que les aînés, ils seront contents de vous voir, ils vous suivront. Ah, ils n'ont peut-être pas dansé prophétiquement comme vous, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. On doit rechercher réellement cette proximité de Dieu. Et encore une fois, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Est-ce qu'on peut simplement prier? Acte 4, il nous est dit que quand ils ont fait monter cette prière, parce que ça venait du cœur, hein, comme à la Pentecôte, le vent a soufflé à nouveau, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je crois que c'est la part que Dieu veut pour nous. Hein, ces choses-là, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par nos capacités, mais c'est par son Esprit. Et Dieu veut un peuple rempli du Saint-Esprit. On en a parlé longuement hier. Un peuple qui manifeste les dons, un peuple qui manifeste de l'amour, de la chaleur, de l'intérêt pour Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que je peux demander aux musiciens de nous reprendre un chant d'adoration? Ça vous va? On a le temps. Et quand on termine sur cette note-là, je voulais vous lire des notes de réveil du Pays de Galles, mais c'est trop tard. On fera ça une autre fois. Amen. Un peuple de prière, un peuple fervent pour l'Esprit de Dieu.